RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui au nord de l'Irak, au Kurdistan irakien. Depuis 2 ans et demi, la région autonome combat l'organisation État islamique à ses frontières. Les combattants kurdes Peshmerga ont reçu l'appui de la coalition internationale dans leur lutte contre le terrorisme. Mais derrière ce front, le Kurdistan est traversé par d'importants mouvements de contestation sociale. Depuis des dizaines d'années, le Kurdistan irakien est divisé par une lutte fratricide entre les deux principaux partis politiques, UPK et PDK. Le peuple a faim, il est fatigué par l'injustice. Ces derniers mois, les mouvements de contestation pacifique se sont organisés malgré la répression des autorités. Kurdistan irakien, liberté réprimée. Un grand reportage signé Oriane Verdier.
Nous n'avons ni eau, ni électricité à l'université. Nous sommes étudiants et nous avons froid.
Dans la foule des manifestants, Samir porte bien haut une pancarte réclamant l'entretien des résidences universitaires. Nous sommes à Al-Abja. Au loin, les montagnes enneigées marquent la frontière avec l'Iran. Ici, l'hiver est rude, mais aujourd'hui, Samir est en débardeur. Il a noué une écharpe autour de sa tête.
Je porte un foulard pour qu'on ne me voie pas. Ici, c'est mal vu de manifester et ça peut apporter des problèmes. Mon débardeur, c'est ma manière à moi de porter un message. Ici, dans la rue, j'ai moins froid qu'à la résidence universitaire. Là-bas, nous sommes tristes. Les gens nous font la charité et nous donnent du pétrole pour que nous puissions nous chauffer. C'est quelle éducation ça? Quel système?
Samir est venu avec plusieurs amis de l'université. En tête de cortège, les professeurs, ce sont eux qui ont organisé la manifestation, réunis sous le nom de professeurs insatisfaits. Depuis un an, le gouvernement affirme ne plus avoir le budget pour payer ses fonctionnaires. Il a donc réduit de 60% les salaires. Soran enseigne le sport au lycée. Selon lui, si le gouvernement ne peut plus payer, c'est à cause de la corruption des deux principaux partis du Kurdistan irakien, l'UPK et le PDK.
Ce ne sont pas que des partis politiques, ce sont deux familles, deux entreprises qui se sont octroyées tous les pouvoirs. Ils sont épaulés par des groupes mafieux. Moi, j'ai des amis qui ont rejoint ces partis. Maintenant, ils ont une maison, une grosse voiture, tout. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils vont jusqu'à tuer des gens pour leur parti. Lors des grosses manifestations, nous avons été jusqu'à 5000 dans les rues. Mais il n'y a aucune réponse concrète. Nous sommes des profs, nous demandons notre salaire. Un père de 4 enfants qui ne reçoit que $250 par mois, comment fait-il pour vivre? Ce n'est pas possible. Et pour finir, tous ceux qui veulent manifester pacifiquement pour changer les choses sont menacés, kidnappés, frappés, tués. Alors aujourd'hui, moi je suis pour des manifestations armées. Une autre Syrie nous attend. Il faut que nous nous sacrifions pour que les nouvelles générations vivent mieux, pour qu'elle ne soit pas contrôlée comme nous.
Alors que Soran porte en lui une rage qui ne demande qu'à s'exprimer, à l'écart de la cohue, un vieil homme suit le cortège en pleurs. Sarbast est venu demander qu'on lui rende son fils de 14 ans, emmené par le PKK. Le Parti des travailleurs kurdes de Turquie est en très bon terme avec l'UPK qui contrôle la région d'Al-Abja.
Il y a un an, des gens du PKK m'ont téléphoné. Ils ont dit « Nous te remercions de nous avoir offert ton fils ». Ce jour-là, le PKK a emmené 14 enfants et les autorités locales les ont laissés passer. Le soir même, les services de renseignement de l'UPK m'ont tout raconté. Ils leur ont parlé et les ont laissés faire. Laissez-moi voir mon fils. Ils m'accusent de soutenir le PDK. C'est pour ça qu'on a enlevé mon fils. Mais je ne suis pas PDK.
Cette guerre fratricide entre l'UPK et le PDK dure depuis des dizaines d'années. Tout Kurde de plus de 20 ans porte gravé en lui les souvenirs de 3 ans de guerre civile. Aujourd'hui encore, le Kurdistan irakien est divisé en deux, la zone jaune du PDK à l'ouest, la zone verte de l'UPK à l'est. C'est dans cette zone plus libre que les manifestations ont pris de l'ampleur, particulièrement dans la grande ville de Souleymaniye. Awad Hassan est l'un des leaders de ces manifestations. il nous reçoit chez lui, devant la grande maison, une carcasse de voiture brûlée.
Depuis qu'ils ont brûlé ma voiture, nous n'utilisons plus le rez-de-chaussée. Nous ne vivons plus qu'au premier étage maintenant. Quand ça s'est passé, nous dormions tous en bas et nous ne pouvions pas sortir. Depuis, mes enfants veulent déménager.
Cette nuit-là, la voiture d'une autre professeure a également été incendiée. Pour Awat, il est clair que c'est l'œuvre des Asaïch, les services de renseignement chargés de la sécurité intérieure. 5 jours plus tard, devant cette même maison, des dizaines d'hommes vêtus de noir sont venus arrêter Awat et ses frères.
Je suis sur le toit de la maison du professeur Awat. Nous sommes entourés de gens armés. Nous avons appelé la police depuis une demi-heure, mais personne ne répond. Ils ont aussi arrêté mon autre frère, Armanj. S'il vous plaît, partagez cette vidéo.
Cette vidéo, c'est mon frère Aram qui l'a prise pour que les gens viennent nous aider. C'était le 1er décembre dernier. Nous avions rendez-vous pour la manifestation à 9h. Mes frères et moi étions déjà montés dans la voiture quand j'ai vu 2-3 véhicules civils approcher. J'ai dit à Aram, ça, ce sont des Asaïch. Je suis descendu et je suis allé les voir. Ils m'ont ordonné de monter dans leur voiture. J'ai dit, vous êtes qui? Ils m'ont répondu, tu n'as pas besoin de savoir qui nous sommes. Monte. J'ai longtemps résisté pour ne pas monter. Pendant ce temps, Aram a commencé à filmer en direct sur Facebook depuis la voiture. Puis il a couru sur le toit de la maison pour avoir des preuves de ce qui se passait. Ils étaient des dizaines habillés en civil. Ils ont arrêté mon autre frère et l'ont frappé. Ils l'ont cassé la gueule, puis ils l'ont embarqué dans leur voiture. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de ma femme et moi.
Assis aux côtés d'Awat, Armanj écoute son frère raconter le début de cette journée qui, pour lui aussi, a tourné au cauchemar.
Ils m'ont emmené dans une cave et m'ont torturé en utilisant toutes sortes de moyens, électrochocs, coups dans le visage et sur tout le corps. Ils m'ont menacé en me mettant un pistolet sur la tempe. Après 2 ou 3 heures, ils m'ont ramené au bâtiment principal des Asaïch. Il est donc certain que mes bourreaux font partie des forces de sécurité de l'UPK. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas sûr de savoir pourquoi ils m'ont battu, moi. Je pense qu'il aurait été très mauvais pour eux de frapper mon frère. C'est l'organisateur principal des manifestations et il est très médiatisé. Ils m'ont torturé, moi, comme si personne n'allait savoir ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'ils préparent une revanche, car l'arrestation a été filmée et tout le monde a vu la manière dont ils traitent les civils.
En effet, plusieurs heures de vidéos sont disponibles sur les réseaux sociaux. On y voit des dizaines d'hommes en civil arrêter la famille d'Awat, frapper sa femme devant leurs enfants terrorisés. Awat ne réussit pas à détourner le regard de son écran. Il a les larmes aux yeux.
Ça, c'était le jour le plus triste de ma vie. Je n'avais pas osé regarder cette vidéo jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un souvenir dur et amer. Regardez, il y a des dizaines, des vingtaines d'hommes armés autour de chez moi. Mon frère Aram a fait une vidéo en direct sur Facebook pendant plus d'une heure et personne n'est venu à notre secours. Ce qui me rend encore plus triste, c'est que les pays occidentaux pensent qu'ils sont en train de soutenir un pouvoir qui a plus que la démocratie. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Je suis allé une fleur à la main à chaque manifestation à laquelle j'ai participé. Un bouquet de fleurs dans une main, un stylo dans une autre. C'est de cette manière que je voulais demander le changement, demander nos droits. Et voilà leur réponse, une centaine d'hommes armés.
Dans la cuisine, la femme d'Awat prépare à manger.
Je fais une soupe de légumes. Là, j'ai rajouté de la viande et du bouillon. Vous savez bien que c'est toujours meilleur avec un peu de bouillon.
Sazgar porte une longue robe bleue et un foulard rose. En plus d'être mère de famille, elle est professeure d'arabe et soutient la lutte de son mari.
Tout ce que je peux faire pour l'aider, je le fais, même si c'est difficile pour moi. Vous savez, nous avons 4 enfants, 3 fils et une fille. Les responsabilités d'une mère, ce n'est pas facile. Les enfants ont beaucoup changé. Dès qu'une voiture passe trop près de la maison, ils apprennent par cœur la plaque d'immatriculation. Ils me disent « Maman, je suis sûre que cette voiture va venir chercher papa ». À l'école, j'ai dit au directeur et au professeur de ne jamais laisser partir les enfants avec quiconque d'autre que moi ou Awat. J'ai également dit au chauffeur du bus de ne pas les laisser descendre autre part que devant la maison, même s'ils le demandent. J'ai peur qu'ils enlèvent les enfants pour soumettre Awat.
Viens, je vais te montrer mes dessins.
Un petit garçon nous entraîne vers un grand tableau blanc. Là, un feutre à la main, il nous raconte son histoire.
Ça, c'est papa pendant la nuit. Moi, j'ai couru par là. Adam aussi, il a fui avec moi. Ça, c'est la voiture. On regardait la voiture. C'était très chaud.
Adam, le grand frère, est assis sur un canapé avec sa sœur. Tous deux regardent la télé. Sur l'écran, pas de dessin animé. Quatre caméras de sécurité filment l'extérieur de la maison. Awat observe ses enfants, inquiet.
La vie des enfants est devenue vide. Ils restent des heures assis devant cette télé et ils regardent les écrans de sécurité et surveillent qu'aucun étranger ne s'approche de chez nous. Avant, ils jouaient de la musique, ils regardaient des dessins animés. Mais maintenant, leur vie, c'est ça. Ils regardent toujours cette télé. Vous savez, nous sommes toujours sous observation. Ils font des allers-retours. Si je fais le moindre geste hors de la maison, ils le savent. Toute ma vie est contrôlée. Regardez, sur cet écran, c'est la voiture des Christian Peacemaker Teams qui vient de se garer. C'est une organisation non gouvernementale. Je leur dois beaucoup. Ce sont mes amis. Ça fait un an qu'ils viennent dormir chez moi pour assurer ma sécurité. Ils m'accompagnent partout. La dame que vous voyez à l'écran, c'est Julie. Elle est américaine. Et le garçon, c'est Regia. Il est kurde. Je vais aller les accueillir.
Je m'appelle Julie Brown. Je travaille pour Christian Peacemaker Teams. Nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Awat a eu de nombreux problèmes avec les forces de sécurité et avec des personnes que nous suspectons être liées au gouvernement. Comme vous le savez, la scène politique ici est extrêmement complexe et naviguer dans ces eaux est très difficile. Il n'est pas inhabituel de trouver des gens tués dans cette région. Il y a bien sûr la guerre contre l'État islamique, une importante crise économique et bien d'autres problématiques qui pèsent sur la région. Mais il faut tout de même que des mécanismes soient mis en place pour protéger les individus. Quand vous vous aventurez sur ces terrains-là, il faut trouver le juste équilibre entre la défense des droits de l'homme et votre relation avec un gouvernement qui a autorisé votre présence sur son territoire. Mais vous avez devant vous une personne qui n'a rien fait de plus que prôner la paix et réclamer ses droits. En échange, il reçoit des menaces de mort. Chacun peut constater que ce n'est pas juste, donc quelqu'un doit en parler.
Aux côtés des manifestants, les journalistes sont eux aussi dans la ligne de mire des autorités. Depuis des dizaines d'années, le journaliste et sociologue Aras Fatah observe et critique la société kurde.
Il y a des discours à la mode ici au Kurdistan. Par exemple, la pluralité religieuse, la liberté d'opinion, la démocratie, la lutte contre Daesh. Tout ça, c'est un marché fructueux présenté aux pays étrangers. Mais la réalité est tout autre. Les Kurdes se sont battus contre le régime de Saddam Hussein. Beaucoup sont morts pour plus de justice sociale, pour des principes d'égalité. Mais tout ça a été piétiné par le pouvoir de l'UPK et du PDK. Aujourd'hui, il y a des élites kurdes qui dirigent ce pays sans le contrôle du Parlement qui a été dissous, sans observateurs de la société civile, et ils gaspillent l'argent de la région comme bon leur semble.
Aras Fatah, comme bien d'autres intellectuels et activistes, ne peut pas pénétrer dans la zone jaune d'Erbil et Dohuk, dont l'entrée est contrôlée par des checkpoints du PDK. À Soleimani, il a reçu plusieurs menaces, mais à Erbil, les conséquences pourraient être bien plus graves.
Ici à Soleimaniye, les gens essaient de lutter pour conserver le mince espace de liberté et d'expression que nous avons. Il y a au moins une forme de manifestation permanente à laquelle participent les écrivains, les journalistes, les membres de l'opposition politique. Mais malheureusement, dans la région d'Erbil et de Dohuk, la pression et la peur sont bien plus forte. La terreur qu'inspirent les politiques à la population oppresse n'importe quelle sorte d'expression de l'insatisfaction sociale. Les gens ne peuvent donc pas s'organiser et descendre dans la rue demander leurs droits.
Et puis, quand ils voient qu'à Souleymaniye, les manifestations ici touchent des oreilles sourdes et des yeux aveugles et qu'elles sont suivies de violences, ils ne voient pas bien le but.
De l'autre côté de cette frontière invisible, les manifestations sont en effet très rares. Il est difficile de s'entretenir en face à face avec des esprits critiques. Un journaliste accepte tout de même de nous recevoir. Son identité restera confidentielle pour des questions de sécurité. Ce père de famille a été successivement correspondant dans la région de Douk pour un journal indépendant de Souleymani, puis rédacteur en chef adjoint de son propre journal.
Lorsque nous avons créé le magazine Bachour, ça a été une surprise pour tout le monde. C'était le premier magazine politique aussi libre et critique. Les autorités ont mis un certain temps à identifier qui dirigeait le journal. Mais petit à petit, les difficultés ont commencé. À chaque publication, ils saisissaient tous les journaux et les brûlaient. Nous recevions des menaces. Au bout d'un certain temps, ils ont arrêté le rédacteur en chef. Il a été relâché après 6 jours de détention grâce à la pression médiatique.
Aujourd'hui, le magazine Bachour n'existe plus, faute de moyens, mais ces journalistes continuent à écrire sur Internet.
Dans cette région, pour devenir journaliste indépendant, il faut d'abord faire ses prières. Il faut être conscient dès le début que tout peut arriver, se préparer mentalement. Les journalistes ici sont persuadés que personne ne peut les aider, que s'ils sont vivants, c'est grâce à leur destin. Même les consulats ne peuvent pas nous protéger. Nous savons bien qu'aucun consul ne fera passer la vie d'un journaliste kurde avant l'intérêt de son pays. Ils peuvent toujours écrire des rapports, mais dans la pratique, personne ne peut prendre notre défense.
Ces 6 derniers mois, 3 journalistes ont été tués au Kurdistan irakien, des meurtres condamnés par les organisations internationales, mais qui n'ont toujours pas été élucidés. Un grand reportage d'Oriane Verdier avec Hussein Raouftar, réalisation Anouk Bernet.